Très bon réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Theresa May sera a priori fixée sur son sort aujourd'hui. Après un troisième vote des députés britanniques sur son texte pour sortir de l'Union européenne, nous irons à Londres à quelques heures de cette session parlementaire.
Le Conseil constitutionnel algérien n'a pas encore débattu d'une éventuelle procédure de destitution du président Abdelaziz Bouteflika. Les choses pourraient s'accélérer aujourd'hui avec une nouvelle journée de mobilisation. Les partis politiques sortent de leur silence, vous l'entendrez.
Vous comprendrez aussi pourquoi un humoriste est le favori des sondages en Ukraine. Le premier tour de la présidentielle a lieu dans 2 jours.
Et puis dans ce journal, nous nous intéresserons également à la filière papier en France, une papeterie de renom. Arjo Wiggins est menacée de liquidation judiciaire.
Enfin, un témoignage à suivre, celui d'une jeune femme homosexuelle longtemps catholique, pratiquante. Elle demande aujourd'hui à l'église de la débaptiser. Nous l'avons rencontrée. Dans un gros quart d'heure, Frédéric Sey se demandera dans son billet politique si nos députés travaillent vraiment. Ce 29 mars 2019 devait être le jour du Brexit. Ce sera au mieux le jour de la sortie de l'impasse. Les députés britanniques sont appelés à voter pour la 3e fois sur l'accord de divorce avec l'Union européenne. Un texte négocié par Theresa May que la Première ministre veut faire passer en force coûte que coûte, Louise Baudet.
Cette fois, Theresa May aura tout tenté pour convaincre ceux qui, dans son camp, complotent depuis des semaines pour la remplacer. La première ministre a promis de démissionner pour convaincre John Bercow, le puissant speaker de la Chambre des communes, d'examiner un texte par 2 fois rejeté. Elle soumet au vote une version tronquée sans la déclaration politique qui préfigure la relation future avec l'Union européenne. Façon de laisser les mains libres à ceux qui lui succéderont, sauf que ce n'est pas comme cela qu'il le voit. Les travaillistes refusent de voter un Brexit les yeux bandés. Et côté conservateur, certains radicaux se sont ralliés, mais d'autres hésitent. De toute façon, c'est mort, pronostique le très caustique Boris Johnson, meilleur ennemi de Theresa May. Sans oublier le DUP, petit parti unioniste nord-irlandais, qui juge l'accord toxique et jamais ne le votera. 10 voix sans lesquelles Theresa May ne peut rien faire et 3 petites lettres qui posent un gros problème de chiffres. Car arithmétiquement, la première ministre a déjà perdu. Quoiqu'en matière de Brexit, les combinaisons sont multiples et la surprise toujours possible.
Brexit, chercher la sortie. Nous y reviendrons longuement ce soir à partir de 17h sur France Culture grâce au grand reportage de la rédaction qui nous emmènera à Bruxelles et qui nous fera surtout sillonner le Royaume-Uni. Marie-Pierre Véraud a notamment rencontré des pro-Brexit qui marchent depuis 2 semaines du nord-est de l'Angleterre jusqu'à Londres. Sur leur trajet, des habitants qui applaudissent et notamment Paulina et Graham.
Toute la côte du nord-est de l'Angleterre soutient les marcheurs. Cette ville seule a perdu 17 000 emplois à cause de l'Europe. La construction navale, l'industrie minière, les industries autour de la construction navale, les ingénieurs, tout ça. Il y a un vieux chantier naval là-bas qui n'est plus qu'une friche industrielle. Un autre employait 3 500 hommes, mais tout est parti à cause de l'Europe. Et on est supposé rester les bras ballants. Il est temps d'ouvrir les yeux.
Et il va y avoir des émeutes dans le pays, sérieusement. Parce qu'on veut partir et que le gouvernement nous en empêche. Voilà pourquoi. Nous avons dit au gouvernement que nous voulons sortir. Ils représentent le peuple, ils ne sont pas là pour leur propre satisfaction. Cette fois-ci, ce n'est pas ce qu'ils veulent qui doit compter. C'est ce que veut le peuple.
Et vous avez donc voté pour le Brexit il y a 2 ans et demi ?
Oui, certainement. On a tous voté Brexit ici, comme toute la côte nord-est de l'Angleterre. Il n'y a que la bulle londonienne qui a voté contre.
Oui, tout le monde ici a voté pour le Brexit, spécialement cette ville, car c'est nous ici qui avons perdu le plus.
Dehors, c'est dehors. Un point, c'est tout.
Des propos recueillis par Marie-Pierre Véraud qui a participé au grand reportage de France Culture tout comme Annabelle Grelier et Angélique Boin. Un reportage en longueur qui sera diffusé à partir de 17h ce soir et suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Eux vont encore marcher pacifiquement ce vendredi. Les Algériens exigent le départ de tout le système Bouteflika et pas du seul président, Abdelaziz Bouteflika. Cette semaine, l'homme fort du régime, chef de l'armée, a proposé d'activer l'article 102 de la Constitution, rendant le président inapte au pouvoir. Le Conseil constitutionnel du pays n'a pas encore débattu. Mais les partis politiques, eux, ont déjà fait connaître leur position. Nous faisons le point avec Nabila Hamel, en commençant par les représentants de l'opposition.
pour Ali Benflis, chef d'un parti d'opposition, qui cite plus volontiers l'article 7 de la Constitution selon lequel le peuple est la source du pouvoir, la demande d'activation de l'article 102 n'est pas susceptible à ses yeux de constituer à lui seul une base pour le règlement de la crise. Ni le peuple, ni l'opposition n'accepteront une telle solution, dit Sofiane Djilali. Ce qui est demandé, dit ce chef de parti, est le départ de tout un système pour aller vers une période de transition avec de nouvelles têtes qui bénéficient de la confiance du peuple, le temps d'organiser une nouvelle élection présidentielle transparente. La responsable du Parti des travailleurs voit, elle, cette demande faite au Conseil constitutionnel comme une immixtion dangereuse du militaire dans le politique. Louisa Hanoun appelle à la convocation d'une assemblée constituante et son groupe parlementaire vient d'ailleurs de se retirer de l'actuelle assemblée.
Voilà donc pour le scepticisme des opposants. Qu'en est-il maintenant des partis au pouvoir ?
Le RND du Premier ministre démissionnaire Ahmadou Yahya, membre de la coalition gouvernementale avant d'en prendre récemment ses distances, voit la proposition du vice-ministre de la Défense comme un moyen d'éviter au pays une situation de blocage et demande au président de démissionner. Le FLN y voit, lui, un début de solution. Quoi qu'il en soit, ce vendredi nous renseignera sur la réponse des Algériens qui manifestent depuis le 22 février, a signalé entre-temps que si la demande d'activation de l'article 102 de la Constitution a été faite par le tout-puissant chef d'état-major de l'armée, le Conseil constitutionnel ne s'est pas pour autant précipité pour l'étudier.
Nabila Hamel pour ses précisions ce matin. Reste à savoir maintenant quelle sera la réponse officielle aux demandes de chacun et surtout de la rue. Les slogans ce vendredi devrait être éloquent. L'information avait été jusque-là dissimulée aux yeux du monde, mais les défenseurs des droits de l'homme s'en émeuvent, heureusement. À Brunei, riche petit état pétrolier d'Asie du Sud-Est, situé sur l'île de Bornéo, le pouvoir s'apprête à faire appliquer les peines les plus sévères de la charia, la loi islamique. L'homosexualité et l'adultère vont bientôt être passibles de la lapidation. L'homosexualité, déjà illégale dans le pays, sera considérée comme un crime. Amnesty International demande au pays d'arrêter immédiatement la mise en application de ces mesures. Juan Guaido, le chef de file de l'opposition au Venezuela et président autoproclamé du pays, Juan Guaido a été privé hier du droit d'exercer le moindre mandat public pendant 15 ans. Le pouvoir actuel évoque des incohérences dans les déclarations financières de Juan Guaido. Ses dépenses ne correspondraient pas au niveau de ses revenus. Il est également révoqué de son poste de président du Parlement. L'opposant appelle à de nouvelles manifestations demain contre le régime de Nicolas Maduro. Regardons maintenant ce qui se passe en Ukraine. À 2 jours du premier tour de la présidentielle, le favori des sondages est un humoriste. Volodymyr Zelensky est un comédien célèbre pour avoir incarné dans une série à succès un professeur devenu président. Il devance actuellement assez nettement le sortant Petro Poroshenko et l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko. Alors pourquoi donc ce profil tente-t-il autant les électeurs ukrainiens ? Stanislas Vazak a posé la question à Antoine Arjakovsky, historien et spécialiste des relations russo-ukrainiennes.
C'est surtout un humoriste qui profite du fait que la population ukrainienne est fatiguée par des années de réformes. Depuis 2014, la société a vraiment beaucoup changé. Des réformes importantes ont été faites pour intégrer l'Union européenne. Et puis à la guerre qui a fait plus de 13 000 morts, des dizaines de milliers de blessés, 1,5 million de déplacés. Et donc voilà, Zelensky, c'est surtout le symptôme d'une société qui est fatiguée et puis qui voit, c'est vrai, des scandales de corruption et donc qui préfère en rire et qui préfère se distancer de la politique politicienne. Alors c'est un russophone, c'est ça qui est important de mentionner dans les enjeux de cette campagne. Poroshenko, lui, il représente l'Ukraine ukrainophone, même ils sont tous bilingues, mais Zelensky, lui, c'est un russophone qui a du mal à s'exprimer en ukrainien et qui a fait son succès grâce à une émission télévisée qui s'appelle Le Quartier 95, où il a fait rire toute l'Ukraine pendant des années. Et là, il a fait alliance avec un oligarque bien connu qui s'appelle Igor Kolomoïski, qui détient la chaîne de télévision Adin plus Adin, 1 plus 1, qui est probablement la chaîne privée la plus populaire en Ukraine. Ils ont donc fait alliance pour s'opposer au pouvoir du président Porochenko.
Et notons par ailleurs que les 5 missions diplomatiques ukrainiennes en Russie resteront fermées ce dimanche, empêchant ainsi au moins 2,5 millions de citoyens ukrainiens résidant en Russie de voter pour ce premier tour de la présidentielle. L'Allemagne prolonge de 6 mois son gel de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Elle ne lui vendra pas au moins jusqu'au 30 septembre prochain, estimant que ces armes ne doivent pas être utilisées dans la guerre au Yémen. Ses partenaires européens, la France et le Royaume-Uni notamment, faisait pression pour une levée de ce moratoire.
8h10 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Les salariés de la papeterie Arjot-Wiggins ont été reçus hier à Angers par une conseillère du chef de l'État.
Oui, puisqu'ils en appellent aujourd'hui au gouvernement. Alors que ce vendredi, le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre sa décision sur le placement ou non de l'usine Arjot-Wiggins en liquidation judiciaire. Le tribunal a cette semaine accordé quelques jours de délai aux milliers de salariés menacés dans l'espoir d'une offre de reprise. Le besoin de financement s'élève à 40 millions d'euros. Une situation qui témoigne, Laura Dulieu, de la mauvaise santé de la filière du papier.
4 sortes de papiers sont fabriqués en France. Les papiers cartons d'emballage, les papiers hygiéniques et les papiers spéciaux pour l'industrie. Ces 3 branches se portent plutôt bien, mais c'est la 4e, le papier graphique, c'est-à-dire le papier de presse et bureautique, qui est à la peine. Paul-Antoine Lacour est délégué général de Copacel à la Confédération française de l'industrie du papier, carton et cellulose.
Le développement des technologies numériques a eu un impact fort sur les modes de consommation. À cela s'ajoute également une tendance de fond qui est que les temps passés par nos concitoyens à la lecture diminuent. Ce temps de lecture après est réparti entre la partie justement consommation numérique et consommation papier.
Pourtant les fabricants l'assurent, la mort du papier, ça n'est pas pour tout de suite.
On ne croit pas du tout que le papier va disparaître, il restera pertinent pour de nombreux usages. Simplement, on aura coexistence d'utilisation numérique et d'utilisation papier et on n'a pas encore atteint ce point d'équilibre entre les différentes formes de consommation. On est dans un processus qui est en cours.
En attendant, même si un projet de reprise est accepté, les suppressions d'emplois semblent inévitables parmi les salariés d'Arjot-Wiggins. Les syndicats espèrent conserver 200 emplois à l'usine de Bessé-sur-Braye.
Une usine dans la Sarthe qui compte au total près de 600 postes. Là, c'est une polémique qui pourrait détruire une revue papier. Une polémique entre l'Agence française de développement, qui est la vitrine institutionnelle du développement français, entre l'AFD et des chercheurs. Ils sont 200 à avoir signé une tribune pour leur indépendance. Selon eux, l'indépendance de la revue Afrique contemporaine est en effet mise à mal. Le prochain numéro de cette revue est consacré au Mali, mais sa parution a été suspendue sur décision de l'AFD, qui est tutelle de la publication Claude Guibal.
Un dossier au contenu apparemment trop polémique pour l'AFD qui a demandé des modifications avant de suspendre la parution, d'où ces démissions en chaîne pour protester contre ce qui est perçu comme une volonté d'influencer le contenu scientifique de cette revue. Pour Florent Gel, responsable Afrique de la FIDH et dont l'enquête de terrain a servi d'appui à un de ses articles, c'est une ingérence insupportable.
Cette histoire, c'est celle d'une structure qui cherche à contrer un discours critique, notamment dans 2 articles. L'un qui critique le caractère très militariste de l'intervention française, et puis un deuxième article qui dénonce les exactions des djihadistes, des milices, mais également de l'armée malienne.
À l'AFD, on s'insurge. Thomas Mélogno, le directeur de la rédaction d'Afrique contemporaine, réfute l'accusation de censure.
Il n'a jamais été question d'interdire à qui que ce soit de s'exprimer. En revanche, ce que nous avons dit, c'est que dès lors qu'un point de vue très tranché, polémique, relevant de la controverse scientifique, était exprimé, il fallait des contrepoints pour qu'il y ait du pluralisme. C'est dans le cadre de ce processus éditorial que nous avons eu un différend pour que des points de vue complémentaires soient apportés. Encore une fois, il n'a jamais été question ni de censure, et encore moins de ne pas publier des articles qui avaient été validés scientifiquement.
Une polémique cependant révélatrice de la tension perceptible en France autour du dossier malien et de l'impasse dans laquelle se trouve ce pays au bout de 7 ans de guerre. Impasse sécuritaire, impasse aussi d'une politique de développement enlisée, faute de bonne gouvernance.
Le président Emmanuel Macron continue son grand débat national. Il était hier dans le Maine-et-Loire auprès d'enfants à qui il a notamment expliqué que les casseurs sont, selon lui, les gilets jaunes qu'il n'aime pas. Ce midi, le chef de l'État reçoit des élus des Hauts-de-France, un déjeuner boycotté par certains élus du Rassemblement national, de la France insoumise, au Parti socialiste également. Et dans le Parti Les Républicains, le président de la région, Xavier Bertrand, lui, sera présent à l'Élysée. Réparons l'Église. C'est par ces mots que les journaux La Croix et Pèlerin lancent une consultation pour répondre à la crise que traverse l'Église actuellement entre le difficile aveu des actes pédophiles et les rares sanctions. Ces derniers mois, ces dernières années même, les témoignages de personnes qui ont choisi de se faire débaptiser sont de plus en plus nombreux sous le mot-clé « apostasie ». Audrey Dumain a rencontré l'une de ces personnes à Paris. Elle s'appelle Hélène et elle s'explique.
De toute façon, en tant que femme vivant avec une autre femme, je ne pourrais jamais me marier à l'église. Et puis surtout, moi, ce qui m'a définitivement convaincue, bon, c'est toute la série des affaires autour de l'église. C'est-à-dire qu'on a une institution qui tient des propos sur les femmes, sur les couples de même sexe, sur l'avortement. Des positions qui me sont devenues complètement inaudibles, qui sont inacceptables, je trouve, qui vont à l'encontre de l'esprit de la foi et qui sont dans une interprétation de la religion, de l'amour de l'autre, qui, pour moi, ne font aucun sens. Voilà, ce qui m'a définitivement décidé, c'est que cette même institution qui tient des propos extrêmement moralisateurs sur toute une série de sujets, par ailleurs, soit percluse de scandales, des scandales liés à la pédophilie, des scandales liés à l'abus des religieuses. Ça a été l'accumulation de ça. J'avais vraiment l'impression, en tout cas, en restant dans cette communauté, même passivement, de cautionner les actes que cette église promouvait. Je n'ai pas envie, même sur un registre de baptême, même qui date d'il y a 30 ans, de quand j'avais 2 ans, d'indirectement cautionner ces actes par ma seule présence.
Un témoignage clair, sans filtre, recueilli pour France Culture par Audrey Dumain. Le temps sur l'Hexagone s'annonce toujours assez beau ce vendredi. Après quelques bandes, brouillards matinaux sur le nord et les Pyrénées, le week-end s'annonce d'ailleurs tout autant ensoleillé. Ce matin, Météo France prévoit déjà 11 degrés à Strasbourg et à Nantes, 12 en région parisienne à Bordeaux et Lyon, entre 15 et 16 degrés près de la Méditerranée.
Allez, merveilleux. Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal, 8h16 sur France Culture.